Bonjour tout le monde, ici Luc.
Ici Jake.
Et bienvenue à Ménage à deux. Cette semaine ou aujourd'hui, on va vous parler des 5 meilleurs jeux de 25$ ou moins.
Allons-y.
Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Jake, comment ça va?
Ça va bien Luc, puis toi?
Ça va, mon Dieu, ça va très très bien. À quoi t'as joué récemment Jake?
Ben, cette semaine, j'ai joué à un jeu auquel j'ai déjà joué auparavant avec trois Luc, qui s'appelle Cryptid. C'est un très bon jeu de déduction qui est pas trop complexe, mais ça fait quand même beaucoup penser quand tu joues. J'ai joué à ça avec quelques collègues, ils l'ont adoré. Il y en a même un qui a dit qu'il va l'acheter. Donc, c'est vraiment un jeu que j'adore. Je l'ai acheté la seconde après avoir fini à jouer ça avec Luc en ligne, puis je regrette à zéro de l'avoir fait.
Enfin, on n'a pas joué en ligne, on a joué en personne, si tu te souviens bien, mais peu importe. Non, tu l'as acheté en ligne, OK. C'est
parce que merci de me comprendre. C'est mon frère, c'est à cause de j'ai un accent anglophone, je ne sais même pas parler en français.
C'est ça. C'est un très, très bon jeu. À part le fait qu'il n'y a pas assez, en tout cas, selon moi, il n'y a pas assez de composants dans le jeu, mais ça, c'est un autre problème. Moi, j'ai joué avant-hier à Dinosaur Island. Ça faisait depuis l'été que j'avais joué. C'était peut-être ma quatrième ou cinquième partie au total, cinquième partie au total. J'ai joué avec deux amis qui jouaient pour la première fois. Et ce matin, il y en a un qui m'a dit « Oh, j'aimerais ça être en train de jouer à Dinosaur Island présentement. » C'est comme, c'est grosso modo Jurassic Park le jeu, mais puisqu'ils n'ont pas acheté les droits du film, ils peuvent pas le dire. Mais c'est un excellent jeu où on se bâtit un parc d'attractions et on doit faire des dinosaures et puis faire de l'argent avec les personnes qui viennent visiter notre parc.
Mais sais-tu quoi, j'ai jamais joué à ce jeu-là, Luc, mais j'imagine que s'ils avaient pris le nom de Jurassic Park, l'univers aurait fait en sorte que ce soit un jeu vraiment plate, parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
Je suis d'accord avec toi en général, et là vraiment je généralise parce qu'il y a des jeux où il y a des exceptions, mais en général quand les compagnies achètent des licences pour des licences de films ou de produits dérivés, les jeux sont souvent moins bons. Il y en a qui me diront le contraire parce que sur Board Game Geek, par exemple, on voit des jeux de Star Wars qui sont classés très très haut. Et moi, personnellement, j'adore le jeu Marvel Legendary qui est aussi une licence. Mais en général, je ne suis pas un grand fan. Des jeux comme les jeux de Lego, par exemple, pas très bons. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait faire notre liste des 5 meilleurs jeux de 25$ ou moins. Et ça, c'est en dollars canadiens. Jake, est-ce que tu aimerais commencer avec ça? Ben, tout d'abord, ce serait quoi, toi, tes critères? C'était quoi tes critères quand tu as choisi ta liste?
Ouais, c'est très important comme distinction. On aurait pu peut-être choisir 5 jeux qui correspondent à nos goûts ou bien 5 jeux qui pourraient peut-être plaire à quelqu'un qui vient de se joindre à notre beau passe-temps. Donc moi, j'ai plutôt fait le deuxième. J'ai décidé de choisir 5 jeux en dessous de 25$ canadiens que quelqu'un qui vient de commencer à jouer au jeu puis pense à commencer une petite collection de jeux, il pourrait les acheter pour vraiment pas cher puis avoir de bons jeux, de très bons jeux complexes et courts et intéressants tout ensemble. Donc, moi, c'était ça ma stratégie de bâtir ma liste. Toi, Luc?
Moi, j'y suis allé de la façon égoïste. J'ai pensé à moi, c'est tout. J'ai dit mes 5 jeux préférés. Et je dois t'avouer une chose, Jake, parce que si les gens ne le savent pas, on fait souvent ces podcasts-ci, on les fait et en anglais et en français. Et après avoir fait la version anglaise, j'ai quand même changé un de mes jeux pour deux raisons. La première, c'est que j'avais pas vérifié le prix. Il y a assez... assez récemment. Donc, il y a un de mes jeux qui valait plus que 25$. Et puis, aussi parce que ton jeu, un des jeux que tu as choisi, était vraiment... Il aurait été sur ma liste si j'avais su qu'il était à ce prix-là. Donc, je l'ai mis sur ma liste.
Je suis pas très content que tu me voles un jeu, je dois dire.
Ben, je dois t'avouer que le jeu, c'est moi qui te l'ai présenté, donc c'est toi qui me l'as
parlé. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est exactement ça. Donc, voilà. Tant que tu sais que j'ai raison, la vie est belle.
Ouais, c'est une. Vous voyez à quel point qu'il est égoïste, au moins, right?
Et personne ne t'a répondu, donc non. Alors, Jake, quel est ton jeu en cinquième position, ton jeu de 25$? Oh, il y a une chose aussi que j'ai oublié de mentionner. Moi, ma liste en anglais et en français est différente, tout simplement parce que il y a des jeux dans lesquels il y a du texte et qui n'étaient pas disponibles en français au même prix. Donc, puisque c'était pas disponible en français à moins de 25$, ma liste est un petit peu différente en anglais et en français. Alors, Jake, ton numéro 5.
Aussi, moi, j'aimerais dire une chose vite fait. Luc, il a pensé beaucoup plus à ça en français et en anglais. Moi, en tant qu'un anglophone très faible, j'ai pas pensé au texte en français. Puis, en plus de ça, je n'ai pas pensé au magasin français. Donc, moi, les versions anglaises, c'est ce que vous allez voir sur ma liste. Donc, je m'excuse fortement. Il y en a là-dedans qui sont indépendants de langue. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une langue pour y jouer ou vous pouvez trouver des règles en ligne. Mais le jeu et les composants n'ont pas de texte là-dessus. Mais non, j'ai pas fait une liste séparée pour le français et l'anglais. Et il y a plusieurs de ces jeux-là qui se trouvent en anglais et en français. Et le titre, le nom est pareil. Donc,
et qui est égoïste maintenant?
les Anglais. C'est juste moi. Numéro 5 pour moi, c'est Bang the Dice Game. Donc, vous avez peut-être joué déjà à Bang. C'est un peu plus vieux comme jeu. C'est un jeu encore de rôle caché, d'identité cachée que j'ai mentionné dans le premier épisode. Je l'aime beaucoup. C'est un jeu social. C'est un jeu qui se joue à plusieurs. Donc, si vous êtes 5 ou 10, ça joue jusqu'à... Je pense que ça se joue jusqu'à 10. Je ne jouerai pas à ça à 3. Même si la boîte dit que c'est possible, mais c'est un jeu qu'on sait c'est qui le shérif, mais on ne sait pas ce sont qui les autres personnes autour de la table. Et il faut choisir comment utiliser ces dés, ces lancements de dés, lancer des dés pour être capable de tuer ou aider ou guérir quelqu'un comme... qui est peut-être, ils font peut-être partie de ton équipe, mais tu n'es pas certain. Puis je trouve ça vraiment le fun de prendre les dés. J'aime ça que ce soit au hasard, puis qu'on n'est pas certain. Il faut un peu mitiguer les dés pour essayer de vivre le plus longtemps que possible et de tuer quelqu'un qui est peut-être un menace. Donc, mon numéro 5, c'est Bang the Dice Game, Amazon.ca. Là, à 20$ et Meeplemart, ce qui est un magasin à Toronto, mais il livre partout au Canada, c'est 16,95$.
Même si je préfère la version carte, c'est-à-dire Bang, le jeu original, le jeu de cartes, j'ai moi aussi en cinquième place Bang, le jeu de dés. Tout simplement, c'était pas ça que j'avais dans ma version anglaise de la liste, mais j'ai Bang le jeu de dés à 25$ en français sur Imaginaire, en fait, la boutique à Québec, qui, après, si on a 60$ ou plus, la livraison est gratuite. Donc, Bang le jeu de dés, 25$ et tout ce que Jake a dit. En quatrième position, j'ai le jeu First Sale. First Sale, c'est un jeu de commerce un peu. C'est un jeu d'échange où on va... Ben, on échange, en fait. On va miser sur des... on commence en achetant des propriétés. Donc, et on va miser sur ces propriétés-là. Et puis, éventuellement, on va les revendre. Et puis, c'est la personne qui a le plus d'argent à la fin du jeu qui va remporter le jeu. Et ce jeu-là est disponible à 25$ sur imaginaire.com.
Ouais, en fait, je viens de l'acheter ce soir.
Tu l'as acheté, c'est ça. Ben, je crois que c'est un des rares cas où je crois que la version en anglais est plus chère que la version française.
Donc, c'est fou, hein?
Oui, c'est ça. Ben, ceci dit, ça devrait être le même prix dans tous les cas, là. Souvent, en plus, les jeux sont en français à l'origine. Pas dans ce cas-là, mais celui-là est moins cher en français.
Je suis allé au magasin de jeux à Gatineau qui s'appelle Lost des Jeux. C'est très connu ici en région, au moins pour les francophones, mais je pense que les anglos connaissent aussi ce magasin-là. Puis je l'ai trouvé à 19 piastres usagées. Mais la boîte est en incroyable état et je l'aime beaucoup à cause, encore, c'est un jeu que tu m'as présenté, Luc. Je l'aime beaucoup. C'est un bon choix.
C'est un bon jeu à sortir avec les gens qui veulent pas trop de règles.
C'est ça, exactement.
Et quand on veut jouer rapidement un jeu aussi.
C'est ça. Mon numéro 4, c'est King Domino. King Domino, c'est un gagnant de Spiel des Jahres. Je sais même pas prononcer ça en allemand. Comment est-ce qu'on le dit?
Spiel de Jahres ou Jahres ou Jahres ou je sais pas, peu importe.
Spiel de Jahres.
je prends pas ma prononciation, je ne parle pas allemand. Je sais compter jusqu'à 12.
Et voilà, moi je sais compter jusqu'à 0. King Domino, c'est un jeu, je ne sais même pas comment l'expliquer vraiment. Tu joues avec des dominos qui ont des différents types de terres là-dessus, de terrain. Puis tu les prends. Il y a un drôle de mécanique qui est vraiment bien fait. Que si tu prends le numéro 1, ce tour-ci, tu vas passer en arrière pour le tour qui s'en vient, le tour la suite. Et on voit les 4 tuiles qui s'en viennent. Donc, ça change peut-être nos décisions pour ce tour-ci parce qu'on voit le tour qui s'en vient. Puis on est tous en train de bâtir un mini royaume avec des dominos. C'est très simple. C'est vraiment familial. Je trouve ça un bon prix à 25$ sur Amazon.ca, mais aussi sur MeepleMart.com. Je vous suggère fortement de l'essayer, mais c'est un très bon jeu pour les familles et pour ceux qui viennent de commencer à aimer les jeux. Donc, mon numéro 4, c'est King Domino.
C'est un créateur de jeux assez connu aussi, Bruno Catala, qui a fait beaucoup de mes jeux préférés, dont Five Tribes, qui est un de mes jeux favoris. Et oui, c'est un très, très bon jeu. C'est un bon petit jeu assez facile à sortir, puis c'est très beau. C'est toi qui me l'as acheté d'ailleurs, ce jeu-là. Donc, merci, Jake. Mon numéro 3, c'est un jeu d'échange de commerce qui joue à deux. Ça s'appelle Jaipur. Le jeu, en fait, en tant que tel, la boîte, et il y a plusieurs langues donc il y a les instructions les règles sont en espagnol, en français, en anglais, en allemand, je crois, dans la boîte. Il y a plusieurs langues, là, donc c'est assez facile à prendre. Il est disponible pour 25$ sur Amazon et sur Archambault. Jaipur, un bon petit jeu à deux, un jeu de cartes en général avec des jetons, donc ça se transporte assez facilement en voyage et ça prend en 20 minutes, à peu près une vingtaine de minutes, jouer une partie, 20 minutes, une demi-heure maximum, donc un bon petit jeu de cartes Jaipur.
J'adore Jaipur, comment est-ce qu'on prononce en français?
Moi je dis Jaipur, mais il y a personne qui m'a appris qui m'a enseigné comment le prononcer, donc Jaipur.
J'adore le jeu Jaipur. Oh man, je suis vraiment incapable en ce moment. Je l'aime beaucoup, ce jeu. C'est très bon. Un de mes jeux à deux préférés. En fait, je l'avais oublié en faisant ce liste. Donc, ça aurait facilement été là-dessus. Mon numéro 3, c'est aussi un jeu à deux qui s'appelle Lost Cities en anglais, ou je crois que ça s'appelle Les Cités Perdues en français.
C'est exact. Et je ne sais pas pourquoi il y a une version française et une version anglaise au Canada. Il devrait y avoir les règles dans les deux langues. Il n'y a pas de mots sur le jeu, donc il devrait tout simplement y avoir les règles dans les deux langues, ça coûterait moins cher à faire en bout de ligne.
Ah, c'est ça. Puis en fait, à date, le seul jeu que j'ai mentionné, c'est Bang qui a du texte. Donc, dans tous les cas, les autres deux jeux que j'ai mentionnés, à part Bang, et c'est indépendants de langue. Puis Lost Cities, c'est un jeu de cartes vraiment plus qu'autre chose. On essaie de collectionner des cartes d'une certaine couleur pour gagner des points, pour multiplier nos points avec certaines cartes de multiplication. C'est un jeu où on est capable de déposer des cartes entre les deux joueurs sur un mini planche. Et en déposant une carte que tu laisses pour l'autre joueur, tu risques de donner quelque chose que l'autre joueur voulait vraiment. Mais il faut à chaque tour que soit tu joues une carte ou que tu déposes une carte pour être capable de ramasser un autre. Donc, c'est vraiment une question constante de est-ce que je laisse cette carte bleue ici? Est-ce que je joue ma carte verte tout de suite? Comment est-ce que je vais gérer mon jeu? Puis, est-ce que je suis capable de voir à travers les actions de mon partenaire qu'est-ce qu'il veut vraiment? Est-ce que je suis capable de le tenter avec une carte pour gagner un peu de temps pour faire ce que je voulais faire? C'est vraiment un jeu qui est interactif entre les deux joueurs sans trop l'être, dans le fond. Parce que la seule interaction, c'est vraiment les cartes au milieu. C'est incroyablement bien designé. Je trouve ça... Je trouve que le prix est le bon prix, parce que c'est juste des cartes, on s'entend. C'est à peu près un 18 piastres sur Meeple Mart et 20 piastres sur Amazon.ca. 20 piastres pour juste un paquet de cartes est peut-être un peu cher, mais je trouve que le jeu est tellement bien fait que ça a dû faire ma liste de top 5. Donc, mon numéro 3, c'est Lost Cities.
L'intérêt de ce jeu-là, c'est vraiment dans le stress qui est causé par le fait que il y a juste une carte de chaque numéro. Donc, on commence à 2, puis on peut se rendre jusqu'à 10?
Je pense que c'est 10.
Jusqu'à 10, oui. Et puis, si par exemple, j'ai dans ma main, j'ai un 2 et j'ai un 6, si je joue mon 2 maintenant, ça va, mais si je joue mon 6, après ça, on peut plus jouer le 3, le 4, le 5. Il faut toujours jouer en ordre croissant. Et puis, à la fin du jeu, ben on additionne les cartes. Donc, 2 et 6, ça donne 8 points. Alors que il faut qu'on se rende minimum jusqu'à 10 pour commencer à faire des points. Parce qu'en bas de 10, on perd des points. Donc, c'est vraiment ça. En anglais, on dit un peu un push your luck. Il y a comme un sentiment de push your luck. Donc, on prend des chances, en fait. Et puis, je me dis, OK, si je mets un 6 maintenant, peut-être qu'éventuellement, j'aurai un 7. Peut-être que j'aurai un 8. Va me permettre de me rendre, et il y a des cartes qui multiplient aussi le score. Donc, si on est dans le négatif, bien, on multiplie le négatif, et si on est dans le positif, on multiplie le positif. Les points sont étranges à compter la première fois qu'on joue, mais après, c'est un jeu assez simple dans l'ensemble. C'est vraiment la seule partie compliquée un peu, c'est comment compter les points. Mon numéro 2, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu de cartes encore une fois, qui est par un de mes designers préférés qui s'appelle Antoine Boza, qui a fait, dans mes jeux préférés, qui a fait Seven Wonders, qui a fait Ghost Stories, qui sont d'excellents jeux. Et c'est un tout petit jeu encore à thématique japonaise, c'est-à-dire, et le titre c'est Hanabi. Donc, le thème pourrait être n'importe quoi. Le supposément dans le jeu, on fait des feux d'artifice et puis on a des points pour les plus beaux feux d'artifice. Mais vraiment, ce qui rend le jeu intéressant, c'est que on doit faire des suites de numéros. Donc, et c'est coopératif. Autour de la table, par exemple, si on est 3, ben on doit mettre les feux d'artifice bleus de 1 jusqu'à 5. Et on doit les mettre absolument dans l'ordre. Si par exemple quelqu'un se trompe et met un 2 avant un 1, on fait des erreurs, et si on a fait 3 erreurs en tant que table, on a perdu. Mais la chose qui rend le jeu intéressant, c'est le fait qu'on voit pas nos propres cartes. Donc, quand c'est à notre tour, on a 3 actions possibles. C'est-à-dire, soit on joue une carte, et sans voir notre jeu, ben, faut vraiment prendre des chances, ou soit on donne une information à quelqu'un d'autre autour de la table. Donc, il y a seulement deux types d'informations qu'on peut donner. C'est-à-dire, la couleur d'une carte ou le numéro d'une carte. On peut pas donner les deux en même temps. Donc, faut vraiment, quand quelqu'un nous donne l'information, se souvenir de ce qui nous a été dit dans le passé. Et c'est là que ça devient intéressant. Et la troisième action possible, c'est de défausser une carte. Et ça nous permet de retrouver des jetons qui nous permettent de donner plus d'informations. Donc, c'est un peu confus comme ça, mais c'est vraiment un excellent jeu coopératif et ça cause beaucoup de frustration parce que souvent, on va donner une information à quelqu'un et puis l'autre dit « Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as pas compris ça? » Ben, j'ai dit « Je m'excuse, j'ai pas compris. » Donc, ça cause quelques frustrations parfois. Ça peut peut-être briser certains couples, mais le mien a résisté, donc la vie est belle.
C'est intéressant qu'il y a quelques similarités entre Lost Cities puis Hanabi dans le sens que il faut mettre des cartes en ordre croissante puis c'est des couleurs qui doivent matcher puis etc.
Oui, c'est vrai qu'il y a des similarités, mais c'est pas du tout le même genre de jeu. Le feeling est pas le même, mais c'est vrai qu'à la base, il y a des similarités.
Ouais, exactement. C'est vraiment un feeling différent. Puis c'est quelque chose d'important pour quelqu'un qui a jamais joué au jeu ou qui a pas beaucoup souvent joué au jeu. On est vraiment, moi, je suis au moins impressionné par la capacité de prendre des concepts très semblables puis de rendre les jeux très différents pour que ce soit une expérience assez unique. Et dans le sens de Hanabi, c'est littéralement compter de 1 à 5 ensemble, mais c'est pas ça la partie qui est difficile. C'est de retenir l'information qui est donnée, puis c'est de placer ces cartes d'une manière que c'est plus facile de se rappeler où est la carte. Il m'a dit que ça, c'est un 4. Il m'a dit que ça, c'est bleu. Comment est-ce que je vais me rappeler de ça? Puis, il y a des différentes versions de cartes qui aident un petit peu plus. Moi, j'ai la version française que je préfère parce que c'est des cartes en carré. Puis, on est capable de voir l'arrière de la carte. C'est un arbre qui l'a dessus. Puis si on le tourne à gauche, on sait que l'arbre est à gauche. Donc, l'arbre à gauche, c'est mes bleus, genre. Mais c'est à toi de créer ton propre système. Et c'est pas tout le monde qui est capable de retenir de l'information pendant une trentaine de minutes.
Non. Et puis, la version française, c'est un peu étrange. C'est vraiment juste les règles, parce qu'il n'y a pas de mots sur les cartes. La version française se vend dans une sorte de petite boîte en métal. Alors que la version anglaise se vend dans un paquet de cartes régulier. Comme toi, j'ai la version française, puis je préfère la forme des cartes. Mais vraiment, si vous préférez la forme des cartes en anglais, puis vous parlez pas anglais, achetez la version anglaise qui coûte aux alentours de 10$ sur MeepleMart et 14$ sur Amazon, alors que la version française est aux alentours de 15$. C'est un excellent petit jeu qui crée certaines frustrations, mais qui a une mécanique assez unique, le fait qu'on voit pas nos propres cartes.
Mon numéro 2 est aussi un jeu coopératif. Et ça vient aussi dans une boîte en métal. et ça s'appelle Forbidden Island, ou en français, il existe une version française qui s'appelle L'île interdite. C'est un jeu coopératif qui est fait par le même designer que le jeu Pandémie. Ça se peut qu'il y en a parmi vous qui ont déjà joué à ça, Pandémie. Puis c'est vraiment une version de Pandémie qui est un peu plus familiale. J'essaie de pas utiliser le mot facile parce que ça l'est.
Mais c'est le cas.
C'est ça. C'est vraiment une pandémie qui est un peu plus facile. Mais je trouve qu'on a quand même le même type d'expérience en y jouant. On est des explorateurs on est une équipe dans un hélicoptère, puis on trouve une île interdite. On trouve qu'il y a des artefacts. Ça se dit en français, des artefacts comme ça?
Des artefacts.
Des artefacts. Donc, on voit qu'il y a des artefacts sur l'île, puis on veut aller les trouver. On est des explorateurs, mais il faut partager des cartes. Il faut aller dans les sections de la carte différentes qui sont en train de couler dans l'eau parce que l'île est forchée, que quelqu'un qui est venu essaie de voler les artefacts. Donc, c'est très semblable aux mécaniques de Pandémie, si jamais vous avez déjà joué à celui-là. Mais je trouve ça vraiment bon. Puis au prix de 20$ sur Amazon, c'est souvent, ça se trouve souvent dans mon panier. Il y a eu déjà plusieurs fois que j'ai presque acheté ce jeu-là. J'y ai déjà joué plusieurs fois, puis je l'aime beaucoup. Mais je trouve que je m'hésite souvent parce que j'ai déjà Pandémie, puis ça remplace pas mal facilement ce jeu-là. Mais c'est un très bon jeu à un prix très raisonnable. Tu as l'impression de jouer pendant une quarantaine de minutes, puis de s'amuser toute la longue. Il faut travailler ensemble. On dit souvent qu'un jeu coopératif, ça c'est très bien pour le monde qui vient de commencer à jouer au jeu, parce que à la place de jouer contre l'autre, on joue ensemble pour un but commun. Donc, j'aime beaucoup ce jeu-là, puis je le suggère fortement. L'île interdite, Forbidden Island.
Je suis d'accord avec toi que c'est un bon jeu, c'est un bon petit jeu, mais, et j'ai un gros mais, la seule raison pour laquelle je l'aurais mis sur cette liste-là, c'est pour le prix. Parce que si j'ai les fonds, je vais tout de suite aller à Pandémie, qui est vraiment, selon moi, une meilleure version de jeu-là. Et si vous aimez pas le thème, par exemple, des maladies et de la contagion et tout ça, ben vous pouvez aller à il y a des pandémies différentes, il y a toutes sortes de déclinaisons de pandémies. Et par exemple, il y a une version Cthulhu. Tout à l'heure, je parlais des licences, puis je disais j'aimais pas ça, mais la version Cthulhu, c'est quand même une très belle version de jeu-là, de Pandémie. Et c'est une version à laquelle j'ai joué avec des amis. Puis même ceux et celles qui aimaient pas, parce que moi, je suis pas un fan de l'univers de Lovecraft, là, H.P. Lovecraft. Et puis quand même, j'adore la version Cthulhu qui m'a été donnée, en fait. Puis au début, je me demandais, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis finalement, ça m'arrive souvent de le sortir au lieu de sortir le Pandémie régulier. Donc, oui, c'est un bon jeu, l'île interdite, de la même façon que le désert interdit, que j'ai d'ailleurs, j'ai acheté ça il y a longtemps, mais si j'ai le choix, je sors tout le temps Pandémie.
Et là, je viens d'apprendre que l'île est féminine.
Oui, l'île interdite, oui.
Merci.
De rien. Et en première position, mon Jake, je vais te le laisser parce que j'ai volé le tien, donc je vais juste renchérir puis on va parler de la même chose. Moi, est-ce que tu as dit ton deuxième déjà ou non?
Oui, ça c'était mon deuxième.
Ah oui, c'est toi qui as dit ça, c'est pas moi. OK, et donc le premier, vas-y, je te laisse la surprise.
C'est vraiment gentil de ta part, Luc, de me laisser baragouiner ma langue un petit peu en essayant de décrire un jeu. Puis là, tu vas arriver puis beaucoup mieux décrire c'est quoi et tu vas sembler comme l'héros de ma vie.
Mais écoute, Jake, tu peux juste dire le nom puis je peux le décrire après si tu préfères. Mais tu fais bien ça.
Mon numéro 1, c'est un jeu de mots. C'est un jeu un peu de party qui s'appelle The Crypto. Ou des cryptos en français.
En fait, c'est un jeu qui a été créé au Québec, donc j'imagine que c'était des cryptos.
Est-ce que c'est vrai? C'est un jeu québécois?
C'est un jeu québécois, mon ami.
Ah, je ne savais pas. Ben, tant mieux. C'est un jeu canadien, donc, right? On est capable de dire ça?
Exactement. Exactement.
mais non, c'est un jeu de mots incroyable. Auparavant, j'aurais dit que mon jeu de mots que j'aimais le plus, c'était Code Names, mais je trouve que The Crypto a tout à fait remplacé Code Names. On a le même genre d'idée d'avoir deux équipes qui jouent contre l'autre, mais c'est beaucoup plus amusant parce qu'on a les mêmes quatre mots toute la partie. Donc chaque équipe a quatre mots, puis il faut créer des liens. Il faut créer des liens entre les mots. Puis c'est pas les mots qu'on essaie de découvrir de l'autre équipe, c'est plutôt l'ordre des mots pour les codes qu'on va partager. Donc, on a des cartes qui disent que le code c'est 3 de 1 ou c'est 2, 4, 3 ou 2, 1, 4. Puis mon rôle dans mon équipe, c'est peut-être de partager quelques mots, quelques indices qui va mener mon équipe à comprendre l'ordre dans lequel que je veux qu'ils devinent nos quatre mots. Puis l'autre équipe, il les voit pas. Donc, c'est très intéressant comment on est capable de trouver des liens un peu personnels. Il faut utiliser les liens, les faits, les mots que tu sais que tes partenaires, ton équipe, ils vont comprendre, ils vont savoir. Donc, Luc, une fois, on a joué ensemble, tu étais sur mon équipe, puis tu as utilisé quelques mots de musique ou de film que tu savais que j'avais déjà écouté, et ça nous a beaucoup aidé à garnir la partie dans le fond. Et je l'adore, c'est un jeu de mots, c'est un jeu de party. Quand je joue avec le monde qui veut juste relaxer, c'est quand même le fun. Mais si vous êtes avec le monde qui étudie la langue ou qui sont des professeurs ou quoi que ce soit, ça pourrait être très intense et aussi le fun à cause de l'intensité qu'ils amènent à la partie. Donc, c'est un jeu formidable, puis je vais laisser Luc parler un petit peu plus là-dessus.
En fait, t'as parlé au début, t'as dit que c'est un jeu qui avait tué Codenames, puis je suis d'accord avec toi, puis je crois que la raison principale, c'est que t'as le même feeling en jouant deux, sauf que Codenames, on utilise 25 mots à chaque partie, et il y a peut-être 200 mots au total. Chaque carte a seulement un mot. Alors que des cryptos a à peu près le même nombre de cartes, je crois que c'est aux alentours de 200, sauf que à chaque partie, on utilise seulement 8 mots, 4 mots par équipe, et puis chaque carte a 4 mots. Donc, c'est assez... On avant de revoir les mêmes mots, ça va prendre longtemps. En plus, c'est un jeu qui peut durer 30 minutes, qui peut durer 20 minutes, mais qui pourrait aussi durer une heure et demie, dépendant du sérieux qu'on met dedans. Je sais que moi, avec les gens avec qui je joue ces temps-ci à ce jeu-là, ils veulent tellement, tellement, tellement gagner que parfois on se met à penser tout ça. Donc, il y a un genre d'expression dans le monde des jeux qui dit analysis paralysis, donc l'analyse de la paralyse de l'analyse ou par l'analyse ou quelque chose comme ça. Et il y en a qui auraient ça parce qu'ils doivent penser. Alors, si ça vous dérange quand quelqu'un est en train de penser à quelque chose pendant longtemps, c'est peut-être pas un jeu pour vous, mais il y a un sablier qui est inclus. Nous, on l'utilise jamais. Ceci dit, pendant que l'autre pense à quelque chose, vous pouvez juste vous amuser. C'est un jeu de fête. Donc, vous pouvez vous parler d'autres choses. Mais c'est un excellent, excellent, excellent jeu. Et tu disais que c'était disponible sur MeepleMart pour $24 en anglais?
Oui.
Malheureusement, on triche un peu parce qu'en français, il est plus cher que ça. Je crois que c'est quand même un bon jeu à avoir. Donc, si vous le voulez, à moins de $25, vous pouvez jouer en anglais. Sinon, en français, il est un petit peu plus que $25.
Ah, mais ça vaut la peine.
Oui, ça vaut beaucoup la peine. Ouais, ça vaut au moins $26. Est-ce que tu avais quelques mentions honorables avant de terminer, des jeux que tu avais pensé mettre sur ta liste, mais que finalement tu n'as pas mis sur la liste?
Oui, définitivement. Tellement de mentions spéciales. Hanabi était là-dessus. Mr. Jack Pocket, Biblios, Sushi Go, Love Letter. Je pense que la majorité, si pas tous ces jeux-là, sont indépendants de langue. Love Letter, non, mais presque, comme le texte est tellement minime. Il y a quelques-uns de ces jeux-là qui sont à 10, à 12, à 15 $, et c'est tellement facile de se partir à un genre de mini-collection de 10 à 15 à 20 jeux qui coûtent 15, 20 $. Honnêtement, si ça vous tente un peu de commencer à collectionner quelques jeux, d'avoir une mini-collection pour que vous puissiez jouer avec vos amis un samedi soir, commence par ces jeux-là. Parfois ou même très souvent, ces jeux-là sont plus simples et plus vite, la durée est moins longue, mais je ne pense pas que toujours ça veut dire forcément qu'ils sont moins bons.
Oh non, définitivement, la longueur veut rien dire. Par exemple, moi j'adore Santorini, une partie de Santorini ça dure 5 minutes et c'est un excellent jeu. Je suis d'accord avec ta liste de mentions honorables, sauf pour Biblios. Je suis pas un grand fan de Biblios, mais ça, c'est la vie. Je jouerai avec toi quand même s'il faut, mais c'est jamais moi qui va le sortir. Moi, il y a un jeu que j'aimerais ajouter à ça, c'est un jeu qui s'appelle « Six qui prend ». C'est un jeu, je crois pas qu'il existe en anglais au Canada, malheureusement. « Take Six » ou quelque chose comme ça n'existe pas. Il y a une version en français qui s'appelle « Six qui prend ». Sinon, c'est un jeu allemand qui s'appelle « Six Nimmt ». Donc, en allemand, ce serait Sexnimmt, ou je ne sais pas comment le prononcer, mais je crois que c'est S-N-I-M-M-T, en tout cas. C'est un jeu qui joue de 2 à 10 personnes, puis c'est un excellent petit jeu de cartes qui coûte aux alentours de 10 $. Alors, c'était notre podcast concernant les 5 meilleurs jeux de 25 $ ou moins. Merci, Jake, et puis on se reparle bientôt de d'autres jeux.
Merci beaucoup tout le monde. Et si jamais vous voulez mentionner votre jeu ou vos jeux préférés, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à ménage@2jeux@gmail.com. Donc, ménage@2jeux@gmail.com.
Et jeu est au pluriel.
Ça l'est. Puis, honnêtement, on aimerait bien ça, entendre vos pensées de nos listes et ce que vous aurez changé, ou ce que vous aurez ajouté là-dessus. Mais oui.
Et aussi, lire vos emails, ça nous fait. De cette façon-là, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent.
Mais à ta mère. J'ai dit que j'allais arrêter de parler de ta mère dans les podcasts.
Mais je sais que tu l'aimes beaucoup.
Mais ta mère, vas-tu nous envoyer un courriel?
Probablement pas. Bonne journée.
Bonne journée, à la prochaine.
Au revoir.